Radio Courtoisie. Histoire à la loupe. Sur Radio Courtoisie, voici la quatrième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
L'application Waze de la Fiat 500 guidait Walid vers sa destination et affichait le nombre de kilomètres restant à parcourir. Il avait opté pour une musique de rap qui résonnait à plein tube dans l'habitacle.
Il va falloir se taper cette triste musique pendant tout le voyage,
se dit Marie-Jo.
Vous auriez pas quelque chose de plus gai?
S'enquit-elle timidement. Si, on a, répondit Abdul placidement. Et il mit de la danse orientale égyptienne. Puis des chansons de Férouge tirées du festival de Beit Edin.
Ah, c'est plus classe,
proclama Sonia.
Chic, en voilà une qui s'est rangée de mon côté. Tant mieux.
Mais donc, Chou Hayyam, c'est plus dansant, demanda Walid. Et les trois se mirent à scander la mélodie en tapant des pieds suivant le tempo, en applaudissant des mains suivant la mesure et en se bougeant des hanches en cadence. Même Walid, qui conduisait, abandonna un instant le volant pour frapper en rythme ses mains bien en l'air. Ce qu'il put faire grâce au régulateur de vitesse.
L'ambiance a l'air festif. Ça vaut mieux pour les percer à jour. Ils seront moins vigilants. J'ai bien fait de faire mettre du Férouz.
Au fur et à mesure qu'on entrait dans le cœur de la nuit, la musique s'adoucissait vers du blues oriental. Enfin, après de longues heures, la Fiat 500 parvint non loin de sa destination et sortit de l'autoroute. Marie-Jo jeta un coup d'œil sur sa montre. 2h30 du matin. la voiture s'arrêta en rase campagne, à côté d'un bosquet. Abdul en sortit et dit à Walid « Tu m'attends là jusqu'à ce que je revienne. Ça ne sera pas long, mais quand même pas quelques minutes seulement. » Là-dessus, il prit dans le coffre un bidon d'essence, le mit dans un sac qu'il se fixa sur le dos et partit en tenant une paire de gants et une cagoule. Il se dirigea vers le petit bois qu'il traversa, suivi des yeux par les autres passagers. Puis marcha sur une clairière déserte. Après quoi, on le perdit de vue. Marie-Jo se demandait donc ce qui allait se passer.
Qu'est-ce donc qu'il est allé faire avec ce bidon et cette cagoule? Ce n'est certainement pas une halte innocente. Il va pas se mettre une cagoule juste pour aller faire pipi, ni prendre un bidon pour arroser les fleurs dans la forêt ou cueillir des champignons. Je pourrais peut-être demander à Walid ce qui se prépare, car il est évidemment au courant, mais j'ose pas trop me mouiller. Ces canailles, qu'est-ce qu'elles peuvent bien mijoter? Tout cela est éminemment suspect, je dirais même louche, pas net. Feu santé. Il y a du gauche dans l'air, comme diraient les crapules. M'a fallu attendre. J'imaginais Abdul en train de marcher dans la campagne pour déterrer un trésor. Sûr que non. Escalader un mur ou un grillage, peut-être. Casser la vitre d'une fenêtre? Possible. Mais où y a-t-il donc des immeubles dans cette rase campagne? J'avais beau concevoir des hypothèses, tout restait fumeux. De longues minutes passèrent, silencieuses, inquiétantes. Dans la voiture, on aurait entendu une mouche voler, car personne n'osait prononcer le moindre mot. Au bout de quelque temps, on entendit au loin comme une sorte d'explosion, de craquement suivi d'une petite sonnerie très distante. Peu après, je vis s'élever dans la nuit noire des flammes de plus en plus intenses. Elles devaient se propager à l'intérieur d'un bâtiment situé à plusieurs centaines de mètres, mais que je voyais à peine. Il avait sans doute fallu des mois pour construire cet édifice, alors qu'il avait suffi de quelques minutes pour qu'un malfaiteur le détruise, anéantissant tous ses efforts. Abdul tardait à revenir. Walid, inquiet de ne pas le voir ou l'apercevoir, commit l'erreur de l'appeler par réflexe sur son portable. Pas de réponse, puisqu'il était fermé, mais tant mieux. Ce sera une preuve de plus de sa présence sur les lieux. Finalement, le revoilà qui court et bondit en surgissant du petit bois.
« Démarre et fonce !»
ordonna-t-il à Walid. Aussitôt dit, aussitôt fait, et nous reprîmes alors la route du retour. C'était manifestement un véhicule volé, car Walid, qui n'avait pas de permis, ne pouvait ni acheter ni louer. Un silence s'en suivit. Tout le monde se remémorait ce qui venait de se passer et en conjecturait les effets, en supputait les conséquences, en calculant les risques. Comme personne ne causait, mais que tous nous pensions à la même chose, je mis un terme à cet horrible suspense. Qu'est-ce que c'était ce feu? Devant le peu d'empressement des réponses, j'insistais. Un incendie? J'aimerais bien savoir.
Un feu de broussailles,
répondit Walid. Et ils se mirent à rire nerveusement, presque hystériquement. En pleine nuit, et quand il fait frais.
Oui.
Et les rires reprirent de plus belle.
Oui.
Et l'alarme, je crois avoir entendu une alarme de très loin, une alarme anti-incendie. Curieux pour un feu de forêt.
Oui.
De nouveau, les rires éclatèrent. Si je faisais ces remarques de bon cœur, c'était pour donner le change et en savoir plus, même si je n'en pensais pas moins, car j'étais révulsée en mon fort intérieur par le comportement de ces malfrats. Par le bidon d'essence que ces fripouilles avaient rempli lors d'une halte à une station-service. Par la cagoule et les gants. Et aussi par la manipulation des deux filles que nous étions à l'arrière, juste là pour servir de paravent respectable. Sonia s'adressa alors au chef. « Abdoul, expliqua Sarah, elle n'était pas là la dernière fois. »
La dernière fois?
Oui, la fois d'avant, quand on était avec Josie Benabar et qu'on s'était rendu à Perpignan. Abdoul n'était pas d'un naturel causant. Il dit simplement...
Arnaque à l'assurance.
Ça fait beaucoup d'arnaques en quelques jours, gloussa Sonia. Vous avez eu beaucoup de demandes de propriétaires d'entreprises qui voulaient faire incendier leurs locaux au même moment? La question fut jugée suffisamment impertinente pour rester sans réponse. Et je me dis alors que je devrais y réfléchir à deux fois. C'est bizarre, commentai-je. Ainsi, ils n'en étaient pas à leur premier coup. Puisqu'Abdoul avait déjà œuvré à Perpignan, et peut-être y en avait-il eu d'autres encore, ailleurs, dont on ne me disait rien. J'en vins à réaliser l'incroyable enchaînement des hasards, que j'ai décidé de venir à l'hôtel de la Tortue, que j'y connus cette Patricia Benatar, de son faux nom Josie Benabar, qui était un indique de la police très motivé, à la poursuite de gangsters sous couvert de prostitution. Qu'elle m'ait persuadée d'aller espionner à mon tour cette bande de crapules. C'était vraiment une succession étonnante de circonstances qui ne se rencontrent que très rarement. Et en plus, les maladresses s'étaient multipliées. La voiture volée avait dû être repérée depuis un bout de temps. Et ils n'avaient même pas pris les précautions élémentaires d'effacer les traces de leur passage. Pire, qu'ils m'aient laissé voir en direct leur forfait sans avoir même tenté de les dissimuler en planquant la Fiat 500 dans un endroit d'où je n'aurais pu rien voir au lieu d'apercevoir les flammes catapultées dans la nuit noire. C'était vraiment des charlots. Ou plutôt non, des voyous qui pensent qu'ils s'échapperont à tout. Ah, l'impunité. Ils y croient. Mais ils ont tort, ces bandits. Car on va certainement les serrer. Quant à leur fable des arnaques à l'assurance, je n'y crois pas une seconde. Je me suis renseigné par la suite. C'était une entreprise d'irrigation qui faisait des bénéfices et non pas des pertes, qui marchait bien, qui avait besoin de ses locaux comme de son chiffre d'affaires pour exécuter ses contrats. Pourquoi aurait-elle voulu partir en fumée juste pour toucher une indemnité? Et s'il y en avait d'autres, pourquoi ces autres entreprises auraient-elles voulu organiser cette fraude juste au même moment? Tout ça paraissait cousu de fil blanc. Faute d'éclaircissement, je me lançais, prêchant le faux, pour savoir le vrai. As-tu pensé à casser la télésurveillance avant d'agir?
Inutile, j'avais une cagoule.
Qui me répondit Abdoul du tac au tac. Donc, c'est bien toi qui as mis le feu.
T'es bien curieuse, ma petite, mais tu l'as vu comme moi, le feu d'artifice.
Je l'ai vu comme toi.
Alors, c'est simple. Si c'est pas moi, qui? Ça n'a pas explosé tout seul, non? D'ailleurs, j'ai tout filmé.
Ok, mais tu l'as pas fait pour l'amour de l'art, pour voir si c'était joli dans la nuit noire.
Non.
Tu l'as fait pour quelqu'un. Abdul, c'est un taiseux, je l'ai dit. Quand il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Il n'est même pas dans le genre évasif ou fuyard, ou prompt à éluder, par un discours alambiqué ou embarrassé. Il se tait, point final. Faudra sans doute que je l'entreprenne à l'horizontale pour en savoir plus. J'aurais-il que la porte était close. Si je la pousse un peu et qu'elle se laisse faire en grinçant, sûr que je vais trouver des choses pas très propres. Car il faut bien que quelqu'un l'ait payé pour ce travail. S'il a tout filmé, ce Charlot, y compris son effraction et bris de glace, c'est peut-être pour le montrer à son commanditaire. Mais à la réflexion, je ne le pense même pas. C'est simplement qu'il se croit invincible, se bat de plafond et qu'il veut immortaliser ses exploits. Il ne réalise pas qu'il a constitué une preuve contre lui-même qui sonne comme un aveu. Les prutes épaisses qui roulent des mécaniques, c'est par leur orgueil qu'on les attrape, par leur fascination morbide pour le crime, leur attachement monstrueux au mal qu'elle semble adorer comme on adore une idole. T'as un air de dire à la terre entière
« Contemplez ce qui vous attend, les constipés, les dégonflés, les pétochards !»
Et puis, une fois qu'on les tient et qu'on a un peu secoué le cocotier pour qu'ils en prennent un bon coup sur la calebasse, ils se calment et changent de tonalité. Si tu es un mouton, je suis un lion. Si tu es un lion, je suis un mouton. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Donc, m'étais-je dit, ce matamor qui a filmé avec l'aide de Walid commet fréquemment des erreurs d'aiguillage. Profitons-en pour lui tirer les vers du nez. Aussi, me suis-je intéressé à Abdul de plus près à la fin du voyage. Still, le repos du guerrier, si vous voyez ce que je veux dire. Sa récompense en somme. Fallait bien que je serve à quelque chose. Je le reconnais, même si je les exècre ces voyous, j'apprécie néanmoins leur force physique, leur virilité. J'aurais pu lui dire « sois fort et tais-toi », mais ça aurait caché l'ambiance. De toute façon, Abdul ne cause pas et ce fut l'inconvénient. Pas moyen de lui faire dire qui l'avait commandité pour cet incendie. J'en fus fort dépité, même si je n'avais pas ménagé mes efforts pour lui donner satisfaction.
Tel fut le rapport complet que Marie-Jo rendit à Patricia.
Ça colle avec les informations que nous avons par ailleurs. C'est quoi ces infos? Abdul Wafat et Walid Selpialin n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Ils ont déjà incendié trois usines. L'une est dans l'Isère qui fabrique des logiciels pour machines, l'autre à Perpignan qui produit de la peinture. J'y étais et j'ai assisté à tout. Et une troisième est à Château-Renard, à côté d'Arles. Mais celle-là, on n'en est pas sûr. On sait maintenant comment ils procèdent. Il n'y a pourtant aucun rapport entre ces sociétés. Si, il y en a une. On s'en est aperçu quand on a découvert que quelqu'un s'était intéressé à ces quatre lieux. Qui ça? Un homme qui vit actuellement en Iran. Juste avant les incendies, il a fait des recherches sur ces quatre entreprises. Or, auparavant, personne ne s'était jamais renseigné sur les quatre simultanément, car elles n'ont aucun point commun. Presque aucun. Presque. Sauf une. Tu me mets l'eau à la bouche, Patricia. C'est quoi ce point commun? La nationalité des détenteurs du capital. À travers des sociétés écrans, ils sont ou ont été israéliens. Récapitulons. L'homme qui vit actuellement en Iran se renseigne quelques jours avant les sinistres sur quatre entreprises qui n'ont aucun rapport entre elles, sauf d'avoir ou d'avoir eu, via des sociétés écrans, des actionnaires, propriétaires ou détenteurs indirects israéliens. Que faut-il en déduire? Que les coïncidences sont trop fortes pour être le fruit du hasard. Que ce sont les Iraniens qui ont fait les coups, d'abord pour nuire à des intérêts israéliens, et ensuite pour tester les réactions quand on s'en prend à des petits, avant de s'en prendre à des plus grosses. Mais pourquoi avoir recours à de petites frappes comme ceux-là? C'est facile. Tous leurs livres à moto et anonymement une enveloppe de 30 000 euros avec les noms et les adresses et tout les laisse se débrouiller. Si ça marche, tu considères les réactions et tu attends avant de t'attaquer à plus grosse. Si ça marche pas, si ça foire, t'auras perdu 30 000 euros. Mais tout de même, tu prends pas de clampine pour faire le boulot. Tu passes via l'application Signal, par un intermédiaire qui connaît un pro ayant de bons résultats dans les milieux du crime organisé.
C'était pas plus simple de prendre des Iraniens pur sucre?
Non, les Iraniens sont dans les collimateurs des services antiterroristes. C'était mieux de recruter dans le milieu parmi les délinquants des droits communs, car ils passent mieux sous les radars. Et puis, pour des petites opérations comme celle-là, pas besoin d'utiliser la grosse armada.
Pourquoi alors tout s'est arrêté subitement et n'a pas continué? Et pourquoi on ne les arrête pas tout de suite?
Ce n'est pas fini, car il prépare autre chose, ton Abdoul.
N'exagérons rien, il n'est pas plus mon Abdoul que le tien.
Il a beau être TSE, il n'a pas perdu son temps avec nous, hein, ma poulette?
Marie-Jo se mit à rire. Et la Benatar surenchérit.
Dis, t'as trouvé que c'était une bonne coup?
Tu le sais, j'aime me faire prendre par des brutes et ce gros porte-œufs m'excitait, même si je le déteste.
T'as de la chance, parce que moi, comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai pas aimé. Trop rapide. Aussi vite fini que commencé. N'essaie pas de retenir. Bon, je sais que les filles comme nous, elles sont dressées pour ne pas s'attarder dans le perfectionnisme, ni dans les ficelages fornicatoires et autres mièvreries. Mais tout de même, faut un minimum de civilité. En tout cas, c'est pas demain la veille que je vais recommencer avec ces gousses. Tu vois? Il est plus fait pour toi que pour moi. Si on a encore besoin d'un appât, ce sera toi qu'il faudra envoyer. Mais on n'aura peut-être pas besoin vu le prochain coup qui se prépare.
C'est quoi le prochain coup?
Un trafic des Kalachnikovs, des stoupes et des GPS auxquels notre crapoule se livre.
Ah, il a vraiment tout pour plaire!
Les flics attendent d'être sourds que ses matériels soient dans sa voiture.
Toujours la même? Toujours la même? Il n'a pas encore réalisé qu'elle était géocalisée parce qu'elle a été volée?
Pas encore. Ou alors, il s'en fout et ne prend aucune précaution. C'est que c'est pas un type susceptible d'avoir des remords, des regrets ou les moindres commencements de dégoût des sentiments et des culpabilités.
Effectivement, quelques semaines plus tard, la police intercepta le véhicule et trouva dans son coffre les armes et produits illégaux que Patricia espérait. La bande fut mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire sous les verrous. Abdul et Walid avouèrent tout. Ils s'en vantèrent même. Et, quand à la fin de l'interrogatoire, l'enquêteur leur demanda pourquoi ils en étaient si fiers, ils laissèrent entendre que c'était une façon de se faire remarquer par leur commanditaire pour qu'on leur confie plus tard de plus lucratives missions. Mais comme ces crapules allaient rester à l'ombre pendant quelques années, le policier demeura sceptique sur leur explication et leur dit
« Non, C'est juste parce que vous aimez faire le mal.
Joe félicita Miss Liégeois et lui présenta l'équipe de policiers qui avait été chargée de l'enquête et de suivre l'affaire à distance. Et les policiers lui proposèrent de travailler pour eux, eh oui, mais sur d'autres dossiers. Alors la question se pose dans toute son ampleur. La trajectoire allait-elle s'infléchir ? Marie-Jo allait-elle accepter de devenir, comme Patricia Benatar, une indicatrice professionnelle ? Ou allait-elle, au contraire, mettre fin à cette aventure en la jugeant trop aléatoire ou trop dangereuse pour reprendre sa vie conjugale plus paisible ? Ah, ce doute, ce doute !
Vous venez d'entendre la quatrième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles histoires à la loupe. Histoire à la loupe.